Il existe dans une vallée de la Normandie une exploitation agricole hors du commun, une sorte d'oasis où se trouvent des mares, des îles, des vergers, une forêt-jardin et des pâturages en pleine santé. Très loin des pratiques agro-industrielles, cette ferme, avec l'aide de chercheurs, a expérimenté de nouvelles méthodes pour permettre l'émergence d'une agriculture naturelle. 8 ans après sa création, les résultats obtenus stupéfient les agronomes. Bienvenue à la ferme du Bec-et-Loing et dans le monde de la permaculture. C'est donc le dossier cet après-midi de La Tête au Carré, avec mes invités Charles-Hervé Gruyer et François Léger. Bonjour à tous les deux. Et bienvenue, Charles-Hervé Gruyer, avec votre femme Perrine. Vous êtes donc les propriétaires exploitants de cette ferme du Bec-et-Loing en Normandie. Ferme que vous avez créée donc en 2006 sur le principe de la permaculture. Vous décrivez toute votre aventure dans un livre qui paraît aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du Possible. On en parle avec vous et en votre compagnie, François Léger. Vous êtes enseignant-chercheur à AgroParisTech et vous vous intéressez depuis très longtemps à des agricultures alternatives. On va donc découvrir ensemble à quoi ressemble cette agriculture sans pollution, sans pesticides, sans pétrole. On va se pencher sur les résultats d'une étude scientifique qui a fait le suivi, qui fait encore le suivi de cette ferme pour voir si ce maraîchage biologique a tenu ses promesses. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et toutes les questions franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag LATAC. Et puis on terminera bien sûr avec notre quiz scientifique. 2 nouvelles questions pour nos auditeurs du jour. C'est Violaine Ballet qui réalise cette Tête au Carré avec un dossier préparé par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le mardi, c'est le jour du DDD, ça n'est pas un pesticide, hein. C'est le docteur Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Alors vous nous parlez aujourd'hui, vous êtes un peu énervé, hein. Je vous sens un peu en colère au sujet d'une publication de l'Institut National de Veille Sanitaire qui vous a fait bondir cette semaine, car à en croire la presse, le médecin généraliste que vous êtes et tous les autres commettraient une erreur tous les 2 jours.
Hein. Oui Mathieu, ça fait la une de certains journaux. J'ai beau être blindé face à l'étendue de la désinformation médicale et scientifique, certains journalistes arrivent encore à me surprendre.
Alors pourquoi d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que c'est parce que les conclusions de cette étude sont fausses?
En partie Mathieu, mais surtout ce qui est faux, c'est le résumé qu'en ont fait les médias.
C'est-à-dire?
Eh bien le public a entendu que les médecins généralistes commettaient de fréquentes erreurs de diagnostic ou de prescription. Or, ce n'est pas ce qui est rapporté dans cette étude. En fait, les erreurs de diagnostic ne concernent que 14 consultations parmi les 13 000 analysées, sur 1000. Je trouve d'ailleurs ce chiffre très faible, accessoirement. Et une seule a eu des conséquences définitives, le retard au diagnostic d'une scoliose chez une adolescente qui peut être rééduquée plus tôt.
Et alors,
pour ce qui est des erreurs de prescription elles-mêmes, les résultats présentés restent dans le flou, mais il s'agit de quelques dizaines d'ordonnances parmi plusieurs milliers. En fait, une grande quantité d'erreurs concerne des problèmes administratifs, des retards dans les vaccinations, des rendez-vous manqués, des numéros de téléphone erronés ne permettant pas de rappeler le patient. Bref, beaucoup d'imperfections, certes, dans la prise en charge du malade, mais heureusement, les événements graves se comptent sur les doigts d'une main.
Ouais, il y a eu des morts ou pas ?
Oui, il y a eu un mort, un seul, un homme de 87 ans, dont le généraliste n'a pu obtenir à temps une consultation chez un cardiologue.
Alors, quelle est vraiment, Dominique, donc la faute du généraliste dans toute cette histoire ?
Bah, écoutez, à la rigueur de ne pas avoir remué ciel et terre pour trouver un cardiologue disponible, mais en tout cas, ce n'est pas lui qui l'a tué. Car en effet, ce qui m'énerve dans le compte-rendu que les médias ont fait de cette étude, c'est qu'ils ont parlé d'erreurs commises par les généralistes. Alors qu'en fait, il s'agit d'erreurs constaté par mes confrères, ce qui est quand même différent. Et d'ailleurs, il y a un nombre important d'erreurs qui sont dues au patient lui-même, qui ne suit pas le traitement prescrit ou qui ne réalise pas les examens demandés.
Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce travail ?
Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Et je suis inquiet de lire qu'il va être utilisé par le gouvernement pour orienter notre politique de santé. Indépendamment de la lecture déformée transmise par les médias, ce travail souffre de biais importants.
Donc, l'étude en question.
Hein. Voilà. Tout d'abord, il a porté sur des médecins généralistes volontaires impliqués dans l'enseignement et la santé publique. Je doute que cette élite soit représentative de ma spécialité. Nous savons que la médecine, qu'elle soit générale, spécialisée ou hospitalière, est malheureusement à l'origine de beaucoup de complications sérieuses. Ensuite, le signalement des erreurs a été réalisé en majorité par les généralistes eux-mêmes. Et je ne suis pas sûr que demander à quelqu'un de signaler ses propres erreurs soit extrêmement fiable. Et finalement, ce travail, c'est un recueil subjectif des difficultés rencontrées au quotidien par les meilleurs médecins généralistes et par leurs patients. C'est pas inintéressant, mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et recenser et quantifier les véritables erreurs des médecins est un travail intéressant, mais qui demanderait une approche bien plus rigoureuse.
Voilà, donc vous étiez content de parler au nom de tous les médecins généralistes qui sont très en colère comme vous,
j'imagine. Il y a un généraliste bashing, c'est la mode. en ce moment, ça m'énerve. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas non plus des nuls, il ne faut pas exagérer.
Bon, nous avons entendu votre colère.
Merci de me permettre de le dire.
Et vous pourrez revenir la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez vous calmer sur votre balcon. Je crois que vous avez un compost, c'est ça, Dominique ?
Absolument, ce qui attire les mouches. Ma femme est folle de rage, mais il faut que je trouve une solution.
Mais je crois que mon invité en a une pour vous, donc Absolument. Ce sera l'occasion de rester avec nous. Permaculture, on en parle dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré. Et une tête au carré qui démarre avec la voix de Rod Stewart et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Moi j'étais juriste internationale, tout d'abord à Tokyo. Mais je me posais beaucoup de questions quand même, hein, quant au sens de se lever tous les matins pour faire gagner des millions de dollars à une boîte qui finalement faisait quoi, quoi, mis à part répartir les dividendes parmi les actionnaires, payer ses salariés. Donc ça me titillait pas mal. J'avais une envie de sens, un vrai questionnement.
Devenir paysan, parce que je préfère ce mot à celui d'agriculteur, devenir paysan Et on revendique ce mot qui a été souvent dévalorisé, cutéreux, bouseux, etc. C'est un métier, c'est sûr. On a pour ambition de faire vivre nos quatre enfants. Ça va beaucoup plus loin que la dimension purement économique.
Aviez-vous déjà entendu parler de la permaculture ? C'est une façon alternative de faire de l'agriculture. Elle s'inspire du fonctionnement de la nature pour concevoir des installations économes en ressources, pour cultiver la terre donc, et produire différentes récoltes. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré d'un reportage qui a été tourné à la ferme biologique du Bec-Éloy en Normandie par le réalisateur Philippe Lemarchand. On y entendait entre autres la voix de Perrine Hervé-Gruyer et je suis en compagnie de son mari Charles. Ils publient ensemble leur expérience dans un livre « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes ». C'est aux éditions Actes Sud. Charles-Hervé Gruyer, donc vous êtes notre invité, avec François Léger, enseignant-chercheur à AgroParisTech. Et toutes les questions pour vous, les témoignages aussi des auditeurs, arrivent sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le hashtag LATAC. Charles-Hervé Gruyer, donc on va découvrir avec vous cette ferme tout à fait étonnante, le parcours d'abord qui vous a amené à la permaculture, et puis bien sûr les résultats qui nous intéressent, que vous avez obtenus et suivis par des chercheurs qui mènent dans cette ferme une sorte de grande enquête, de modélisation en tout cas de cette ferme, donc on peut comparer à un laboratoire à ciel ouvert. Et François Léger, précisément en tant que scientifique, vous vous intéressez depuis assez longtemps aux agricultures alternatives, on peut dire les choses comme ça.
Oui, oui.
Et vous menez donc une grande enquête, comment ça se passe?
Une grande enquête, ce serait sans doute prétentieux. Non, il s'agit de... En fait, j'ai rencontré Charles il y a quelques années et l'une des questions qui était posée, c'est... est-ce qu'on peut vivre autrement que sur des grandes exploitations agricoles avec des grosses machines, etc. Et donc, on est parti sur une idée assez saugrenue qui était de se dire, est-ce qu'avec 1000 m² effectivement cultivés, donc on ne compte pas les allées, on ne compte pas tout le reste, est-ce qu'on peut rémunérer une personne? Donc, pas une ferme de 1000 m², mais rémunérer. Est-ce que 1000 m² dans une ferme, dont la taille reste à déterminer...
Est-ce que ça permet d'assurer un salaire à quelqu'un?
Exactement.
Ça, c'était vraiment la question de départ.
C'est la question de départ, oui.
Et de cette question est né un suivi scientifique.
Est né un travail. Donc, pour savoir si ça rémunère quelqu'un, il fallait évaluer la production, évaluer les coûts de production, évaluer le temps de travail. Oui. Donc, on s'est mis à enregistrer tout ça. Eux, parce que moi, je suis tranquillement dans mon bureau, attendre que les résultats m'arrivent. C'est une position tout à fait agréable.
Il s'agissait de faire une modélisation.
L'idée après, c'est finalement, ces 1000 m² nous permettent après de traiter ces données pour essayer de modéliser, de faire des scénarios de ferme un peu différents de celles qui existent, de façon à découvrir quelles sont les limites, effectivement, de l'efficacité économique et de l'efficacité écologique de ces fermes.
Voilà. Avec toute la complexité d'un système vivant comme une ferme.
Absolument.
Parce que c'est très compliqué.
C'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine.
Mais heureusement, il y a les mathématiques et les algorithmes qui vous permettent de faire le boulot. Charles-Hervé Gruyer, donc permaculture aux éditions Actes Sud. On entendait donc il y a un instant votre femme Perrine qui évoquait son histoire. Car rien ne vous préparait au départ à devenir paysan. Elle était juriste internationale, vous marin. Qu'est-ce qui vous a amené à cette permaculture, vous qui n'aviez donc aucune formation agricole au départ?
Absolument. Je dois même avouer qu'on n'avait jamais visité une ferme bio avant de prendre le statut d'agriculteur. Ce qui est une honte, surtout que personne ne fasse pareil. Mais ce qui nous a motivés, c'était un immense amour pour la terre, pour la nature. J'avais un bateau-école et pendant 22 ans, on étudiait la nature sous toutes les latitudes. Et on partageait la vie des peuples premiers pour voir comment ces peuples arrivent à vivre en osmose avec leur environnement.
Donc c'était déjà un thème qui vous sensibilisait qui vous intéressait beaucoup.
La grande question de ma vie, je dirais, c'est comment habiter harmonieusement cette planète, comment est-ce qu'on peut interagir avec douceur et respect avec notre environnement. Et donc quand on a pris le statut d'agriculteur, c'était avec un désir de reconnexion, d'harmonie avec la terre, pas du tout avec l'objectif de faire des performances économiques, c'était absolument pas notre tasse de thé. On voulait nourrir nos enfants avec des bons produits, on voulait avoir une vie cohérente avec nos aspirations.
Ouais, et vous aviez aussi observé les différentes dégradations des écosystèmes un peu partout dans ce monde que vous avez traversé.
Bien sûr, on avait mené pendant 22 ans une vaste enquête avec déjà des chercheurs, beaucoup de films, beaucoup de livres autour de ces thématiques-là. Donc on était très sensible à la dégradation de la planète et on avait vraiment envie d'essayer de contribuer pour notre petite part à trouver des solutions qui marchent, des solutions de terrain.
Comment vous arrivez alors au Bec-Éloy en Normandie? C'est à quelques kilomètres de Rouen, c'est ça?
Oui, on est à trois quarts d'heure au sud de Rouen, parce que ma famille du côté de ma mère est de cette région. Donc j'ai toujours fréquenté cette vallée qui est absolument magnifique. Et voilà, donc on s'est installé là en 2004. Et on a commencé à créer une ferme pour nous, une ferme d'autosuffisance, d'autonomie. Et puis c'était tellement passionnant, on s'est tellement pris au jeu que, et puis on cherchait un engagement. Donc on s'est dit, ben, devenir maraîcher bio, nourrir quelques dizaines de familles avec des bons produits, des produits sains, eh ben, c'est un bel engagement. Allons-y.
Ouais, et donc, vous vouliez faire de cet endroit un paysage comestible. Hein, c'est ce que vous décrivez dans le livre.
Oui, je dirais qu'on était avant tout dans une quête de beauté. Parce que la beauté, c'est aussi une nourriture. Et donc, on s'est beaucoup inspiré d'images, peut-être un peu nostalgiques, mais de la France rurale, d'avant le remembrement, d'avant la mécanisation. Ce qui fait qu'on a composé un peu la ferme au début comme une sorte de tableau, avec plein de petits milieux qui s'interpénètrent, des haies, des arbres fruitiers partout, des mares. On a même créé des îles-jardins. Enfin, on s'est vraiment autorisé à rêver avec un grand air.
Mais vous étiez déjà dans l'idée de la permaculture. Parce que
non.
C'est ça, cette idée quand même, c'est d'avoir plusieurs écosystèmes qui interagissent les uns avec les autres, si j'ai bien compris.
En fait, oui, vous avez raison. On ne connaissait pas la permaculture, mais je dirais qu'intuitivement, on avait déjà mis en place beaucoup de concepts de la permaculture. C'est-à-dire qu'on avait véritablement renaturé notre vallée. On était sur les jardins ont été créés au début sur une surface d'un hectare deux, un pré, avec un très mauvais sol en plus, dans un fond de vallée humide et froid. Et donc, on avait tout contre nous, notre inexpérience, l'absence de sol. Et pourtant, au bout de quelques années, on a commencé à remarquer que ça produisait vraiment beaucoup, alors qu'on n'avait pas de tracteur, pas d'engin mécanique. Et puis, des agronomes, des paysans, des chercheurs parfois du Japon, des USA, etc., ont commencé à venir. Et disait, mais oui, ça produit beaucoup votre histoire. Donc là, on a commencé à se sentir de plus en plus interpellé. Et on a réalisé que finalement, une forme d'agriculture jardinée, faite complètement à la main, qui cherchait avant tout à aller dans le sens de la vie, pouvait aussi être productive.
Oui, alors on va le décrire effectivement, hein, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler à la main. Je disais sans pétrole tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est vraiment un des composants très importants de la permaculture. Est-ce que, on en discutait avec François Léger, vous aviez besoin aussi d'avoir des scientifiques auprès de vous ? Est-ce que c'était quelque chose d'important d'avoir cette sorte d'observation, de caution de la science par rapport à ce que vous observiez ?
Oui, absolument. François et d'autres éminents chercheurs sont venus il y a 4 ans maintenant, passer un week-end avec nous. On ne les connaissait pas, on était un peu dans nos petits souliers. Et je dirais qu'à la fin de ce week-end, Stéphane Bellon, qui est responsable du bio à l'INRA, nous a dit texto, il nous a dit « Voilà, nous, on n'est pas assez loufoques pour créer un système pareil dans nos stations de recherche, donc vous nous intéressez. » Et nous, on leur a répondu « Nous, on est extrêmement désireux de collaborer avec vous parce qu'on n'est pas agronome pour deux sous, on a besoin de vos compétences, on a besoin de votre regard de chercheur.
Oui, » Donc là, François Léger, vous aviez un laboratoire clé en main quasiment.
Absolument, hein. Et un laboratoire clé en main avec le personnel clé en main, ce qui n'était pas négligeable parce qu'il y avait vraiment un vrai engagement des gens au BEC, Charles, Périne, mais la totalité des gens qui travaillent au BEC, au service de cette production de savoir, finalement, partant de l'expérience empirique, mais dialoguant avec des scientifiques. Et c'est ça, moi, qui me passionnait, parce que dans ma carrière, finalement, c'est pas la première fois que j'ai eu l'occasion de travailler dans ces conditions-là. Et ça m'a toujours paru une forme très productive de production scientifique, que de la faire en collaboration avec les praticiens qui sont, après tout, les utilisateurs finaux. C'est-à-dire que nous, on est agronomes, on travaille a priori pour des agriculteurs.
Alors, vous qui avez une expérience précisément des agricultures alternatives, quel souvenir vous gardez de votre première visite donc, dans cette ferme du Bec-et-Loing ?
Alors, d'abord, ce qui m'a surpris, c'est la quantité de choses qu'il y avait par mètre carré. C'est-à-dire beaucoup de cultures très denses, très variées. Très grande variété. C'est que par rapport à des champs de salade classiques, y compris en agriculture biologique, on était effectivement à des densités très largement supérieures. Sur le coup, je n'aurais pas pu vous dire de combien.
Mais ça vous a surpris.
Ah, absolument. C'était vraiment l'une des choses impressionnantes, c'était la densité et la variété. Et d'autre part, ce qui était très surprenant, c'était finalement l'intrication dans un même lieu d'arbres, d'eau, des cultures légumières, de cultures médicinales, etc. Avec une idée, effectivement, qui était beaucoup plus proche du jardin tel qu'on l'imagine que de la ferme. Et c'est en quelque sorte un jardin géant. Et ça, pour moi, c'était vraiment, dans la conception même d'un lieu de production, une vraie rupture. C'est-à-dire ne pas chercher à simplifier pour être plus efficace, mais chercher à rendre plus complexe pour être paradoxalement plus efficace.
Alors déjà, des courriels d'auditeurs, Anne nous dit ceci, le bec est loin d'être le meilleur exemple de la permaculture, que je n'appelle pas permaculture, mais biodynamie, nous dit-elle. Un couple à Mouscron a élaboré un petit jardin, mais très dense. Ça, c'est le vrai exemple, le jardin des fraternités ouvrières. Et elle vous demande de nous dire quelle est la différence vraiment entre la permaculture et la biodynamie.
La biodynamie a été créée dans les années 20 par Rudolf Steiner, qui était un anthroposophe. C'est assez différent, mais on peut complètement se rejoindre. Je voudrais préciser que la permaculture va bien au-delà de la sphère agricole. Quelque part, c'est s'inspirer de la nature pour imaginer, repenser l'ensemble de nos installations humaines. Donc on peut tout à fait appliquer les concepts de la permaculture à une ville, avec le mouvement par exemple des villes en transition, à une entreprise, à n'importe quelle initiative humaine. Donc c'est bien plus qu'une super méthode de jardinage naturel. Alors à Moucron, il y a un couple absolument extraordinaire qui a créé il y a 40 ans une forêt-jardin complètement atypique et avec une densité de végétaux absolument incroyable. Oui. Et c'est vrai que ce projet est parti de l'intuition d'un couple d'ouvriers qui était au chômage dans une zone assez sinistrée. Ils ont réalisé quelque chose, une forêt-jardin absolument étonnante et productive sur un très petit espace. Donc c'est l'une des applications de la permaculture, mais pas plus que nous, ils ne connaissaient la permaculture lorsqu'ils ont démarré.
Justement, François Léger, l'aspect urbain de cette méthode vous intéresse énormément.
Oui, moi je fais partie d'une équipe qui s'appelle Agricultures Urbaines, et en fait une équipe qui est née... de cette question qui émerge et qui est vraiment très forte en ce moment, d'un besoin de remettre de la nature en ville, mais de remettre une nature pas juste comme décor, mais comme lieu où les gens puissent être en interaction avec elle. Et c'est vrai que produire ce qu'on mange, c'est la meilleure façon d'être en interaction avec la nature. Et donc, on assiste actuellement à une montée en puissance de ce mouvement
donc en faveur d'une agriculture. Donc, il y a un intérêt extrêmement important en ce moment, et ça bouge beaucoup,
ça
visiblement.
Bouge beaucoup.
Et ça, vous l'observez pour des personnes qui habitent en ville.
Alors, pour des personnes qui habitent en ville, mais aussi pour des élus, des municipalités, des entreprises, nous sommes sollicités de façon... complètement disproportionné à nos capacités et à nos moyens, on n'est pas très nombreux, pour répondre justement à des demandes de villes, à des demandes de particuliers.
Et là, on parle bien de cultiver des légumes.
Il s'agit de cultiver à manger, et donc
des légumes
des fruits, mais on va voir apparaître aussi du petit élevage, des poulaillers, des poules, des petits animaux. Il y a un éleveur de brebis qui travaille avec son troupeau de moutons quasiment aux portes de Paris, etc.
Ouais. Charles Évrégueux, vous avez des animaux justement dans cette ferme, beaucoup ou pas?
Oui, absolument. On a à la fois des animaux, des plantes cultivées et des arbres. C'est ce qu'on appelle un système agro-silvo-pastoral, mais miniaturisé. Donc on a des moutons, des équidés, on travaille aussi avec un cheval de trait, une basse-cour, etc.
Ouais. Et quelle est donc la superficie aujourd'hui de la ferme exactement?
Au total, notre ferme fait 20 hectares, mais il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de vergers, et la partie cultivée en maraîchage ne fait que 4 500 m², ce qui est très petit. Ouais. Et cette petite surface cultivée donne du travail à 4 ou 5 maraîchers à temps plein.
Et ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que la permaculture ne va qu'avec de petites superficies?
Non, pas forcément, mais c'est une science encore très jeune qui a été formulée en Australie à la fin des années 70, et donc elle n'en est encore qu'à ses premiers pas. Et on cherche beaucoup comment passer de l'échelle micro-ferme à des systèmes plus vastes, justement. C'est une question qui nous intéresse beaucoup, qui est abordée dans notre bouquin.
Mais ça, c'est déjà en expérimentation ou pas? À des échelles plus importantes, parce que là, on est vraiment dans le micro, effectivement.
Oui. Il y a tout un tas d'expériences qui s'inspirent de la permaculture dans le monde entier. Et on travaille avec une équipe d'experts internationaux justement sur cette question d'adapter ces concepts à des fermes de plusieurs milliers d'hectares dans des régions comme l'Australie ou d'autres pays où ce sont des grosses fermes. Maintenant, il faut reconnaître que ces concepts s'adaptent beaucoup mieux à des petits systèmes.
On est d'accord.
Parce qu'on est à échelle humaine.
Voilà.
Et avec nos petites mains, on peut les gérer efficacement.
Allez, on revient ensemble dans un instant. Charles Hervé-Gruyer et François Léger pour parler donc de la permaculture. Vous allez vraiment nous expliquer comment vous fonctionnez avec ces méthodes et puis évidemment les premières observations scientifiques au travers de ce suivi.
Au jeu de la vie épanouie, c'est du tirage au sort. Ça te tire et qu'on taille dans la nuit, façon chasse au trésor. Je nous pousserai des ailes, on prendrait mon fils qui dort. Je te promets pas le Ritz, mais du pastel plein le décor. Presque mort à Shanghai ou à Paris, on s'occupe, on compte les scores. Viens qu'on trouve une rade, direction sud ou nord, où les mouettes bavardent, voiliers sur le port.
Jeu de la vie avec Mokayesh à l'instant sur France Inter. On parle de permaculture. C'est l'objet d'un livre aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du Possible, signé Perrine et Charles Hervé-Gruyer, qui ont donc expérimenté la permaculture dans leur ferme du Bec-et-Loin en Normandie. Charles Hervé-Gruyer est notre invité avec l'enseignant-chercheur agro-paritech François Léger. Et vos messages sur franceinter.fr. Juste un tout petit mot, tout à l'heure on parlait de moucron. Ça se trouve en Belgique.
Hein. En Belgique,
c'est ça. On parlait de ce couple donc, qui a élaboré lui-même un jardin. Larry sur Twitter nous dit ceci. Pourquoi avoir choisi 1000 mètres carrés pour votre projet de ferme? Est-ce que vous avez cherché la surface minimum nécessaire pour créer un écosystème équilibré?
Ouais, c'est une question très intéressante parce que quand on a décidé de faire tout à la main, on n'avait pas de base. On ne savait pas combien est-ce qu'on pouvait réellement soigner à la main efficacement. La surface minimum pour créer une ferme bio avec un tracteur en maraîchage est estimée à au moins un hectare, donc 10 000 mètres carrés, 10 fois plus. Et nous, on a beaucoup ramé les premières années parce qu'on était toujours trop grand. On n'avait pas intégré le fait que nos pratiques ne marchaient que si on était tout petit. Et en fait, ces 1000 mètres carrés sont sortis d'études qu'on a menées sur la microagriculture nord-américaine, parce qu'ils ont une tradition de microagriculture jardinée qui a maintenant plusieurs décennies et qui est très belle et très riche. Et également, d'un exemple fascinant, c'était les pratiques des maraîchers parisiens au 19e siècle. Parce qu'on a oublié que Paris était autonome en légumes produits intramuros pendant, grosso modo, toute la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, tous ces gens-là travaillaient à la main sur des surfaces de l'ordre de 1000 m² à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi avec François Léger 1000 m² comme base de l'étude. Mmh. Et maintenant, en année 3, on voit que on arrive tellement à densifier les cultures que la surface cultivée au jour d'aujourd'hui dans notre ferme est plutôt de l'ordre de 600 à 700 m² par personne, par maraîcher, pour un temps plein. Et effectivement, un tout petit territoire, pour répondre à la deuxième question, permet de créer vraiment quelque chose d'extrêmement riche. Dès lors qu'on
y associe... Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, peut-être qu'on peut s'adresser aux scientifiques, François Léger. Qu'est-ce qui se passe précisément quand on a un territoire aussi restreint pour, comme résultat, avoir autant de productivité ?
Alors, en fait... Cette productivité, elle naît d'abord du fait qu'on tasse un peu, hein, on a des densités élevées, mais elle naît aussi du et productivité entre guillemets naturelle, c'est-à-dire sans apport de fertilisants, sans apport de pesticides, etc. En fait, en créant quelque chose de très dense et de très diversifié, on va chercher à démultiplier les interactions qui existent entre tous ces organismes, dont nous-mêmes d'ailleurs. Nous sommes à des organismes vivants présents dans ce milieu. Et cette démultiplication d'interactions...
Elle est liée à la proximité ou pas ?
Liée à la proximité, liée à la densité, liée à la diversité, et surtout et à l'hétérogénéité qui se crée dans ce milieu, elle va finalement être un instrument de sa stabilité. Non pas de l'équilibre, c'est idiot de parler d'équilibre dans un truc où on arrache des légumes tout le temps, mais c'est des systèmes relativement stables, et c'est cette stabilité qui en fait la force et la productivité, et elle naît de cette hétérogénéité, de cette diversité.
Extrême. Et alors là, les résultats sont implacables, hein, parce que vraiment on fait appel aux mathématiques,
Il y a pas de problème,
par rapport à la surface, la proportion obtenue de légumes, par exemple, est beaucoup plus importante que lorsqu'on a... beaucoup plus grande.
Tout simplement parce que là, sur ces 1000 m² où tout est très dense, où il n'y a pas de passage de route tracteur, où il n'y a pas de passages qui sont liés aux contraintes même des équipements, on va avoir beaucoup plus de production. Ouais. Et moi, je ne me serais jamais lancé honnêtement dans cette étude si, en fait, je n'avais pas eu connaissance, avant même de rencontrer Charles, de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait au Canada, de ce qui se fait au Japon, de ce qui se fait en Australie. Et l'Australie est un des hauts lieux de création de cette pensée alternative en agriculture. C'est-à-dire, si ça marche aux États-Unis, en Australie, en Suisse, en Autriche, au Japon, pourquoi ne pas essayer en France ? Et c'est vrai que l'un des défauts sans doute qu'on a en France, c'est souvent de ne pas admettre que si ça marche chez le voisin, ça doit bien pouvoir marcher chez moi.
Charles-Hervé Gruyer, précisément, donc, la permaculture est née en Australie, on peut dire les choses comme ça ?
Oui, ces deux fondateurs, Bill Mollison et David Holmgren, ont publié leur premier livre « Permaculture 1 » en 1978. Mais bien sûr, ils avaient repris plein de travaux antérieurs de tout un tas de brillants écologues, mais qui évoluaient plutôt dans le monde anglo-saxon.
Et quels sont les grands principes, alors, précisément ?
C'est très très simple, c'est une affaire de bon sens, un enfant peut comprendre ça. C'est observer comment fonctionne la nature. La nature a un génie inimaginable, parce que ça fait plus de 3,8 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre, et elle a colonisé tous les milieux, et elle a surmonté toutes les embûches. Donc ça a beaucoup de sens de s'inspirer de la nature. Et finalement, quand on regarde comment fonctionne un écosystème naturel, on voit qu'il y a plein de composants, il y a une grande biodiversité, mais tout, et ça c'est plus invisible, il y a un réseau de relations extrêmement dense qui relie tout. Donc ce sont des systèmes qui fonctionnent en boucle, tout est relié, tout interagit, il n'y a pas de déchets, les déchets de l'un deviennent le produit de l'autre, etc. Et finalement le tout est plus que la somme des parties. Et ça explique pourquoi la permaculture est avant tout un système conceptuel, parce qu'on va chercher à bien positionner les éléments de notre système, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent interagir. Donc on va sortir de la pensée linéaire qui domine l'ère industrielle, et revenir à une pensée beaucoup plus écologique, une pensée circulaire.
Donc c'est vraiment au niveau du global hein, que vous travaillez.
Voilà.
Et c'est cette globalité, cette compréhension de tous les systèmes qui sont en interaction les uns avec les autres qui vous donne ces résultats.
Exactement. On cherche à dessiner un système, à le concevoir en pensant à la globalité. Dans sa complexité, on ne cherche pas forcément à tout comprendre, mais on cherche à tirer la quintessence de ces interactions. C'est-à-dire c'est un système qui marche beaucoup sur les flux, plus que sur les stocks, quelque part. Et nous, on a une terre qui est pauvre, on n'a pas beaucoup de stocks de nutriments, peut-être, dans le sol. Mais il y a tellement de vie dans ces sols et au-dessus du sol également, que les flux sont maximisés, les échanges sont maximisés.
Oui, alors au-dessus du sol, justement, on peut en parler, hein, parce que je crois qu'au départ, vous avez été attiré par un système de culture très ancien, justement, qui était un petit peu sorti de l'oubli, et qui s'appelle les buttes permanentes, c'est ça ? Explique-nous le principe.
Eh bien, le principe, c'est que, c'est tout simple, là encore, on parle de l'observation de la nature, les écosystèmes sauvages ne sont pas cultivés, il n'y a pas de machines, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'engrais. Et pourtant, la biomasse produite par les écosystèmes naturels est généralement de 2 à 4 fois plus élevée que nos agro-systèmes cultivés. Et donc, on arrête de retourner la terre dans nos jardins, on fait des buttes permanentes, c'est-à-dire des amas de terres arables. C'est une pratique qui a au moins 4000 ans.
Oui.
Et du coup, la vie du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons, etc., s'en donnent à cœur joie, parce qu'ils ne sont plus détruits par des passages d'engins mécaniques. Et donc, on a un sol qui est de plus en plus fertile. Et le fait qu'on puisse produire beaucoup sur très peu d'espace fait qu'on concentre nos soins sur des surfaces réduites. Donc, ce qu'on peut apporter comme compost, comme soins, comme arrosage, etc., est concentré sur une surface réduite et du coup d'autant plus efficace.
Oui. Et le cheval de trait, lui, il peut aller sur ces surfaces très petites
hein. Non, en fait, lui, il est presque au chômage maintenant parce que la culture sur butte permanente est tellement plus efficace que la traction animale qu'on
le
garde.
Tout le monde se repose chez vous.
On a encore travaillé avec lui. Hier, on a des jardins en terrasse aussi au-dessus de l'abbaye, mais pratiquement, on a fait des buttes partout. On est complètement accro à ces buttes de culture.
Ouais.
Et on forme plus de 500 personnes par an. Et tous ceux qui testent et qui essayent dans leur jardin la culture sur butte permanente disent il n'y a pas photo, les résultats sont là, c'est spectaculaire.
Alors, il y a plein de conseils sur votre site internet qui s'appelle fermedubec.com. Hein, vous donnez vraiment des clés pour ceux qui souhaitent se former et pour justement réaliser cette permaculture. Gilbert sur Twitter demande ceci: est-ce que la permaculture serait envisageable sur des toits d'immeubles des grandes villes, François Léger?
Alors, si on admet ce que dit Charles, qui est la conception, en fait, il s'agit de concevoir un système dans lequel on multiplie en quelque sorte les interactions entre ses composantes de façon à être le plus en phase avec son projet. Oui, on peut inventer de la permaculture pour toits d'immeubles.
Alors nous, c'est fait déjà ou pas? C'est expérimenté?
Il y a des gens qui travaillent dans cette logique-là, tout à fait. Et nous-mêmes, enfin, à AgroParisTech, on a une expérience de culture sur les toits, alors, dont l'enjeu au départ était d'abord de vérifier que si en cultivant sur les toits de Paris, donc nous on est rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement, quel était le risque de pollution par la pollution aérienne. Et donc on s'est rendu compte que ce n'était pas si dramatique que ça, ce qui n'est peut-être pas le cas dans tous les quartiers de Paris. Et donc, on va maintenant plus loin dans la réflexion sur les supports de culture, etc. Mais c'est plus un travail qui vise à fournir des éléments de réflexion pour les montages, justement, de projets plus complets qu'un projet permaculturel à proprement parler.
Charles-Hervé Gruyer, une question de Jeanne, une question sur le compost. À composter des épluchures de fruits du commerce traitées aux pesticides, est-ce qu'on risque pas de retrouver ces pesticides dans le compost et au final donc dans les légumes qu'on cultive?
Il y a un risque, bien sûr, donc c'est une invitation à manger bio.
À ne pas en utiliser,
c'est une invitation à manger bio. Après, quand le compost chauffe, mais ce qui n'est quasiment jamais le cas d'un compost ménager, une partie des polluants sont détruits. Donc on ne peut que inviter à utiliser des composants le plus propre et le plus pur possible, bien sûr.
Vous vous présentez comme des créateurs d'humus. Ça veut dire quoi exactement?
C'est-à-dire qu'on crée du sol, c'est ça. Il y a plein d'externalités positives dans cette forme d'agriculture. Non seulement elle est productive et elle fait des bons produits, mais en plus, elle a un impact génial sur la biosphère. C'est-à-dire que l'agriculture dominante détruit les sols. On a détruit, en 50 ans d'agriculture industrielle, 30% des terres arables de la planète. Alors que là, on constate...
C'est irréversible, selon vous, ou pas? Ou la Terre a cette capacité de se renouveler?
Non, on peut au contraire recréer du sol, mais c'est du boulot. Mais on constate qu'avec notre système de butte permanente et la conception des jardins, l'épaisseur de terres arables grandit d'année en année. Et puis, du coup, on stocke du carbone dans les sols et dans les arbres, puisqu'il y a des arbres partout. Donc ce type de ferme apporte une petite contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.
Gaël, justement, nous demande, est-ce que vous pourriez nous parler des initiatives de carbon farming menées par exemple par Joël Salatin aux États-Unis?
Oui, tout à fait. Il fait partie de cette équipe d'experts que j'ai évoquée tout à l'heure, dont on fait aussi partie. C'est une agriculture qui va chercher à reconstituer les sols, faire monter leur taux de matière organique. La matière organique qui fait la richesse d'un sol, ce sont des chaînes carbonées. Donc à partir du moment où on stocke du carbone dans le sol, on l'enlève de l'atmosphère. C'est aussi simple que ça.
Benoît nous dit ceci: comment est-ce que vous sélectionnez vos variétés cultivées? Est-ce que vous êtes parfois en conflit avec des groupes de grainiers officiels, comme ça peut être le cas pour certaines associations?
Non, pas du tout. On cultive à peu près 1000 variétés différentes de fruits, légumes, plantes aromatiques, ce qui est absolument énorme. C'est d'ailleurs peut-être trop, tellement c'est dur à gérer, mais ouais. La biodiversité cultivée nous passionne. Et on a actuellement, à notre époque, un choix entre plein de sources de semences bio, de variétés modernes ou anciennes, qui sont en train d'être redécouvertes largement. Donc je dirais que le champ des possibles est très largement ouvert à notre époque.
François Léger, parlez-nous donc de ce travail de modélisation de la ferme et de ce suivi scientifique que vous menez encore en ce moment.
Sur la partie, on va dire, technique de la modélisation,
oui, on va peut-être s'en tracer. On va pas rentrer dans les détails.
Mais... Non, l'idée, c'est de se dire, bon, la ferme du Bec et Loin, c'est une ferme, c'est une aventure particulière avec des gens particuliers. Et on ne va pas prêcher dire, voilà, le Bec et Loin, c'est bien, donc faites pareil. Donc toute la question qui est posée à un scientifique, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux apprendre d'une ferme comme le Bec et qu'est-ce que je peux transmettre à d'autres qui auraient envie de tenter leur propre aventure particulière ou collective. Et donc, en fait, ce qui nous a intéressé, c'est de prendre un morceau de la ferme qui soit le moins, comment dirais-je, hétérodoxe ou le moins le plus banal, allez, on va dire ça comme ça, mais en même temps le plus très signifiant dans la ferme. Donc, la serre, parce que les choses soient dites, en Normandie, si vous voulez faire des légumes toute l'année, il faut une serre. La serre est une partie. Et puis, tirer le maximum d'informations possibles sur ce qui se passe à chacun des endroits dans cette ferme pour pouvoir produire une réflexion, des connaissances à diffuser au-delà de la ferme.
Donc vous récoltez vraiment les observations,
Et
l'expérience qui est menée.
On récolte l'expérience, on écoute ce qui nous est dit.
Ça aussi, va rentrer dans la moulinette des algorithmes.
Voilà.
Et à la sortie,
l'idée, c'est de modéliser des fermes qui toutes cultivent 1000 m², mais avec peut-être pas les mêmes associations de culture, peut-être pas les mêmes types même de buts, parce qu'il y a plusieurs types de buts, peut-être pas la même proportion de serre par rapport à ce qui est en dehors de la serre, etc., pour essayer de voir quelles sont les conditions minimales à respecter pour que ce truc nous paye une personne comme on le souhaite.
Charles-Hervé Gruyer, dernière question de Véronique qui vous demande comment vous gérez les espèces invasives dans un jardin en permaculture si on considère qu'un invasif est par définition en rupture avec les équilibres écologiques. Vous êtes confronté ?
On n'a pas été confronté à ce problème. Le fait que la biodiversité soit très importante, y compris la biodiversité sauvage, parce que les naturalistes observent une explosion des animaux, des insectes, des espèces aquatiques également, favorise un état d'équilibre. On n'a pas été confronté à un problème d'espèces invasives.
Bon, donc vous n'avez pas de réponse pour l'instant à cette question. Peut-être
que ça arrivera un jour. Je pense que la biodiversité est une réponse, oui. C'est-à-dire que plus le milieu est naturellement riche, moins il offre de place à des parasites.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ce livre s'appelle Permaculture, guérir la terre et nourrir les hommes. C'est passionnant, c'est aux éditions Actes Sud, dans cette collection Domaine du possible. Et ça raconte donc toute votre aventure personnelle, votre expérience, et puis bien sûr les résultats que vous avez obtenus dans votre ferme normande, Périne et Charles-Hervé Gruyer. Merci beaucoup, ainsi qu'à vous François Léger d'être venu dans notre Tête au carré cet après-midi. Dans un instant, le quiz de l'émission.
I'm not afraid to die.
So What avec Buffalo sur France Inter. Et c'est l'heure, bien sûr, de tester nos connaissances scientifiques avec le quiz de la tête au carré. Florence Porcel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Je sais qu'ils nous attendent, le cœur battant, au bout du fil. Vous nous les présentez ?
Bonjour Delphine et Clément.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Delphine, vous habitez à Paris.
Oui.
Et j'apprends que vous êtes graphiste et illustratrice naturaliste.
Oui.
Vous travaillez pour des livres de science ?
Oui, par exemple, ou pour les musées du sang naturel aussi.
Mmh. Clément, vous êtes-vous à la Mézières, dans l'Ille-et-Vilaine ?
Oui, voilà.
Et vous faites quoi dans la vie exactement ?
Alors, je suis releveur de compteurs, c'est-à-dire que je relève les compteurs électriques et gaz chez les particuliers.
D'accord. Florence, nous allons jouer jusqu'à jeudi avec les éditions Arte,
oui, hein,
qui sont les partenaires de notre jeu.
Oui, on joue alors pour vous offrir la valse des continents 2 et le grand inventaire. Et c'est évidemment le joueur qui aura accumulé le plus de points qui remportera ces deux DVD.
On va commencer donc, Delphine et Clément, par les questions, la question d'actualité. Vous allez entendre dans quelques secondes un extrait sonore et ensuite donc je vous poserai une question. Voici cet extrait.
Vous avez devant vous les restes d'une nouvelle espèce de dinosaure. C'est le squelette le plus complet jamais trouvé d'un animal supermassif.
Delphine et Clément, nous venons d'entendre le paléontologue Ken Lacovara décrire le fossile qu'il a découvert. À quelle famille de dinosaures ce spécimen appartient-il ? C'est la question, vous avez 30 secondes pour nous répondre. Alors, une famille de dinosaures. C'est pas très sympa pour commencer,
c'est pas,
ça.
Non,
hein.
C'est une question un peu difficile. Ce sont des très très gros dinosaures.
Des spinosaures, non.
Non. Comment on pourrait aider les candidats,
ils
Florence
sont, ils sont très très gros et donc...
Ah, c'est la famille des Diplodocus, tout
non.
ça
Non.
Ça fait penser à un gros bateau
un
qui
gros
a coulé,
bateau, voilà.
par exemple.
Qui a eu
un gros bateau.
Oui, un gros bateau très connu qui a coulé. Pardon ?
Les titans.
On n'est pas loin.
Les titans, on n'est pas loin. Ah Clément, c'était presque ça. Les titanosaures. Oh, dites donc, on a commencé dur là quand même.
Oui, non, j'avoue, c'était un peu compliqué. Alors les titanosaures, voilà, c'est un animal vraiment gigantesque hein, qui vient d'être découvert en Patagonie. Alors le plus gros animal ayant foulé le sol terrestre,
ah bon,
si l'on en croit l'étude parue il y a quelques jours dans Scientific Reports.
Combien il faisait de mètres ?
26 mètres de long, 60 tonnes, et celui-là n'avait pas terminé sa croissance.
Oh là !
Voilà, il a vécu il y a 77 millions d'années, il était herbivore, et les chercheurs l'ont baptisé Dreadnoughtus Schrani, ce qui veut dire celui qui ne craint personne.
Oui, ça aurait été encore plus difficile que notre titanosaure,
oh bah
finalement.
Oui. Donc du coup, j'ai été plutôt sympa.
Bon, aucun point pour l'instant. On va essayer de se rattraper avec les questions de rapidité, donc Delphine et Clément. Et là, vous connaissez le principe. Il s'agit de répondre le plus rapidement possible à cette question avec un ordre croissant de difficulté, hein, Florence.
Oui, oui, et je rappelle que si une question pose problème, on peut passer à la suivante et y revenir après. Hein.
Vous êtes prêts, Delphine et Clément ?
Oui.
On lance le chrono, c'est parti. Première question. Quel mollusque bivalve est devenu le symbole d'un pèlerinage célèbre ?
La coquille Saint-Jacques.
Bonne réponse. Quel est le nom du premier animal mis en orbite autour de la Terre ?
Un chat.
C'était Laïka. Bonne réponse de Clément. Comment appelle-t-on un mot substitué à un autre par erreur et qui révèle un désir inconscient ?
Un lapsus,
Delphine, bravo. Comment appelle-t-on un polygone à sept côtés ?
Un hexagone.
Un hexagone, Clément, absolument.
Oui, c'est la bonne réponse. Quelle particule élémentaire présente dans les atomes est chargée négativement ?
Des électrons ? Des ions ?
Un électron, Delphine. Quelle maladie liée à la destruction progressive du nerf optique est due à une pression intraoculaire trop importante ?
La cataracte,
non. Non. Une maladie dont on entend souvent parler ?
La myopie, non.
Non, la destruction du nerf optique. Allez, je vous pose la dernière question. Quel matériau la chimiste américaine Stephanie Kwolek a-t-elle inventé ? Quel matériau cette chimiste américaine a-t-elle inventé ? C'est un matériau résistant.
Résistant,
très
oui.
résistant.
Et très léger.
Voilà, utilisé pour les gilets pare-balles, par exemple.
Oui, par exemple.
On vous aide là, hein, Delphine et Clément. Alors.
Non, pas d'idée.
Est-ce que vous avez
non,
la réponse ? Quelle maladie liée à la destruction progressive du nerf optique est due à une pression intraoculaire trop importante ? Aïe. Alors, c'était le glaucome pour cette maladie que vous connaissez.
Oui, bah oui, j'ai un copain opticien qui va m'engueuler, je crois.
Eh bien, voilà. Et ce matériau, découvert donc par cette chimiste américaine, si on vous dit gilet pare-balles, équipement sportif, pneus, des bateaux, vous pensez à quoi ? Le Kevlar.
Le Kevlar,
voilà.
Et, Et d'ailleurs, son inventrice, hein, parce que c'est une chimiste, est décédée en juin dernier. Voilà, j'imaginais que vous en aviez entendu parler.
À l'âge de 90 ans, et le Kevlar a été, lui, inventé dans les années 60.
Hein, oui, c'est absolument. Ça,
c'est le moment du mot mystère, Delphine et Clément. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. On vous a donné un mot hors antenne qu'il va falloir faire deviner à votre adversaire. Et Florence, on commence par qui aujourd'hui?
Ben, par Delphine, par exemple.
Allez, Delphine, vous avez 45 secondes. Je vous entends soupirer à l'autre bout du téléphone pour faire deviner votre mot à Clément. On envoie le chrono, c'est parti.
D'accord, alors il me semble que normalement, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes. Et en général, quand on globules fait blancs. Des vaccins...
Pardon, Clément?
Les globules blancs?
Non.
Et il me semble que normalement, quand on fait des vaccins, c'est justement pour faire développer ça, si je ne me trompe pas.
Oui, vous l'avez dit ?
Les anticorps, Clément, c'est ça, hein ?
Oui. Les anticorps, oui.
Absolument bonne réponse, bravo. Et vous avez répondu assez rapidement, ce qui vous vaut quelques points.
Bah 10.
Offert par la tête au carré.
Voilà.
Vous avez 10 points grâce à ces anticorps. Clément, c'est à votre tour, 45 secondes, pour faire découvrir ce mot mystère à Delphine. Si vous êtes prêt, on y va ?
Oui.
On lance le chrono, c'est parti.
Alors Delphine, c'est en deux mots, donc c'est un terme d'astrophysique qui désigne quelque chose qui n'est pas encore observé, enfin, ça, voilà. Et ça a été découvert, mis en évidence par l'étude de la masse des galaxies.
Est-ce que c'est pas les trous noirs ?
On y est presque.
Pas loin, pas loin.
On n'est pas loin.
On est dans le domaine de l'obscur, Delphine. Continuez, voilà, vous l'avez, je suis sûr.
Et il faut vous penser que les galaxies, on a déterminé qu'elles pesait un certain poids, mais que ça... donc il manquait... Ouais.
Delphine, vous avez un mot exact sur les deux. Vous avez un mot exact sur les deux. Donc c'est pas le trou, c'est noir.
C'est noir, voilà.
Là, c'est pas la matière noire, non?
Mais mais si. Ah. Mais si, absolument, c'était la matière noire.
Est-ce que je vous ai aidé un tout petit peu?
Un petit peu.
Non, pas du tout.
Mathieu a été gentil avec vous.
Je pense
vous.
Que Clément va m'en vouloir à vie, là.
Non.
Bon, c'était bien la matière noire, effectivement. Alors, on va faire le compte des points.
Eh bien,
c'est là que ça va se corser. Clément, excusez-moi. Mais bon.
Oui, parce que du coup, c'est Delphine qui remporte le jeu avec 25 points contre 20. C'était vraiment très, très serré, du coup.
On félicite Delphine, quand même.
Bravo, Delphine.
Bah oui, toutes nos félicitations. Donc, Delphine, vous repartez avec deux DVD de chez Arte Éditions. Alors, un qui vous fera découvrir les coulisses du Muséum d'Histoire Naturelle, mais que vous devez connaître, du coup.
Voilà.
Et l'autre, qui vous racontera l'histoire des continents africains et américains.
Oui. Voilà. Bah Delphine, si vous connaissez bien les coulisses du Muséum, vous pouvez peut-être offrir ce DVD à Clément.
Ce serait formidable. Oui, carrément. Ce serait formidable. Proposé, ouais, carrément.
Oh, super. Voilà. Bah, c'est noté.
Merci à vous. Je me sens beaucoup plus relax grâce à votre décision. Merci en tout cas à tous les deux, Delphine et Clément. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir joué avec nous.
Ben, merci à vous.
Et pour
merci
tous les auditeurs qui souhaitent nous rejoindre, c'est franceinter.fr.
Le site de l'émission.
À demain, Florence.
À
merci.
Demain, Mathieu.
Et dans quelques jours, nous allons diffuser les premiers messages que vous nous avez envoyés sur le répondeur de la Tête au Carré. Je vous rappelle que depuis donc la semaine dernière, vous pouvez composer le 01 56 40 69 47 pour nous déposer vos remarques, vos suggestions, vos rendez-vous, vos coups de gueule scientifiques. Ce répondeur fonctionne 24 heures sur 24. On vous attend donc dès maintenant au 01 56 40 69 47. Fabrice Drouel vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Affaires sensibles dans un instant. De quoi on parle aujourd'hui? Quel sera le thème?
Alors le thème, c'est de la musique au départ. Rolling Stone, le concert d'Altamont en décembre 69, sauf que tout se passe très très mal, que ça se transforme en tragédie. L'invité, ce sera Patrice Blanc-Francard, producteur, homme de radio, il a été France Inter, hein, et spécialiste du rock.
69, année dramatique.
Décembre 1969, exactement.
Et ce sera dans un instant, après les infos.